Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans l'émission Libre Propos, l'émission hebdomadaire de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre la parole de notre évêque sur des sujets d'église, des sujets de société. Il y aura les deux aujourd'hui, comme d'habitude. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, bonjour Simon.
Alors, premier sujet, dans un discours adressé aux ambassadeurs accrédités, le pape François s'est alarmé de la crise politique qui touche tous les pays du monde, dénonçant ou déplorant une crise des valeurs démocratiques au sein même de nos vieilles nations dites démocratiques. Est-ce que vous partagez ce constat et cette inquiétude ?
Oui, cette question. Alors d'abord j'y pensais, je me disais, quand on voit, là, il y a une sonde qui a été envoyée sur Mars, donc un voyage absolument fantastique. Quand on voit la dimension de cet univers géographique, on peut dire physique, mais aussi quand on regarde l'histoire du temps, donc des plaques tectoniques qui ont bougé il y a 300 millions d'années, 500 millions d'années, je veux dire, nous, on est tellement peu de choses, tellement peu de choses. Et je le dis parce que je trouve qu'on passe tellement vite ici, on est tellement peu de choses qu'on devrait quand même décider de s'entendre. C'est-à-dire que c'est ça le problème que je vois entre les hommes aujourd'hui. Une société qui est très évoluée, qui a des moyens techniques incroyables et qui en est encore à avoir des guerres de clans, on se croirait presque, je ne sais pas quoi, à l'époque des Romains, avec des petites armées, des petits clans. Enfin, c'est triste de voir que l'homme n'est pas capable de dépasser tout ça.
L'homme ne progresse pas, selon vous ?
Il y a des progrès quand même, heureusement. Ouais. Hein, mais il y a quand même des lieux où ça se dégrade. Alors, la question de la démocratie, c'est sûrement pour moi c'est le modèle politique idéal, au sens que ça veut dire que le peuple, les gens, participent au choix de vie, aux lois aussi, qui animent leur propre vie. Donc, bien sûr qu'il faut une forme de consensus, il faut s'écouter, il faut faire avec d'autres opinions. Le problème, c'est que quand l'argent prend le pouvoir, et l'argent, aujourd'hui, est un pouvoir incroyable, quand certains rejettent absolument Dieu, au fond, ils se font Dieu eux-mêmes quand ils ont dans le pouvoir. Donc, il y a des minorités agissantes qui déstabilise la démocratie dans beaucoup d'endroits, ou par la corruption, ou par le détournement, ou par des formes de violence. Voilà, alors, moi, je pense qu'en France, on a eu quand même le christianisme qui a nourri, là, qui a été une sève pour la France, même si parfois il y avait des oppositions politiques très clairement affichées à nos valeurs chrétiennes, mais ça a permis de réfléchir à la personne, la notion de personne, au respect de chacun, une solidarité très large, très forte pour tous. Et le pape aujourd'hui dénonce le virus plus grave que la Covid, il dénonce le virus de l'indifférence. Donc c'est autant d'éléments un peu dramatiques qui peuvent, à mon avis, déstabiliser profondément une démocratie.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est dans ce mouvement de déchristianisation, finalement, fait réapparaître pour parler vulgairement, le mauvais côté de l'homme, finalement.
Je pense qu'il y a des hommes, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui font des belles choses et qui veulent faire des choses positives pour les autres et la société, mais ça laisse quand même un espace de vide pour que d'autres idéologies s'affichent, s'affirment et le font parfois au détriment des autres. Ou bien elles créent, alors c'est comme le séparatisme, elles créent leur petit monde fermé sur eux, sur eux-mêmes, clos, parfois violent, avec les autres. Donc c'est, je pense que La parole de l'Évangile était une parole très puissante pour que chacun trouve sa place et soit respecté.
Oui. Alors, selon le pape, la recherche du bien commun n'est plus au menu. Il demande à nos gouvernants, je le cite, de poursuivre le chemin du dialogue inclusif, pacifique, constructif et respectueux entre toutes les composantes de la société civile dans chaque ville et chaque nation. En lisant ces propos de François, alors j'ai peut-être tort, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser aux milliers de Français qui ont été interpellés par la police durant la crise des Gilets jaunes, et sans oublier le nombre de personnes qui ont été blessées, parfois gravement, au cours des manifestations qui ont jalonné ce mouvement social. On a l'impression qu'aujourd'hui, le dialogue est extrêmement difficile.
C'est la culture du dialogue, le pape en parle beaucoup. Et donc, c'est vrai, quand il parle d'un dialogue inclusif, pacifique, constructif et respectueux, ça me semble une nécessité. Ça veut dire que toutes les composantes d'une société doivent pouvoir être à la même table ensemble, y compris les composantes religieuses. Et parfois, on a une notion de la laïcité qui est exclusive. Je crois que c'est un vrai problème, parce que nous, chrétiens, d'abord, on en souffre. Mais je pense aussi que les musulmans et l'islam peuvent se sentir vraiment encore plus exclus et donc prompt à créer son propre système autour de la charia. Donc, Il faut persévérer dans un dialogue qui n'exclut personne. Parfois, c'est des milieux très athées et très revendicatifs d'un athéisme strict qui interdisent ce dialogue aussi ouvert. Donc je pense qu'il y a vraiment à avancer dans ce sens-là. Quant aux Gilets jaunes, vous les mentionnez, je pense que c'est important de penser à eux parce que profondément, c'était des gens qui majoritairement étaient en grande souffrance, avec des précarités. Je me rappelle encore d'avoir été sur le rond-point de Châteaudun, parler avec eux. Et est-ce qu'on a entendu leur souffrance depuis ? Est-ce que la pandémie, je ne pense pas qu'elle ait amélioré leur vie, oui. En tout cas. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est ? Certains, peut-être, parce qu'il n'y a plus de gilets jaunes actuellement qui manifestent, se disent, au moins, on n'a plus le problème sur les bras, comme on dit, mais le problème demeure sûrement. Donc, il faut persévérer dans un dialogue, et puis faire avec les gens, c'est-à-dire pas faire pour eux, mais faire avec eux. Je pense que beaucoup de gens ont des idées, ont des talents. La démocratie, c'est ça aussi, c'est permettre que les gens apportent leurs idées, leurs talents, même s'ils n'ont pas fait Sciences Po et l'ENA, même s'ils n'ont pas forcément des bacs plus, mais parce qu'ils ont du bon sens. Ils aiment leur pays, ils aiment leur territoire, leur Eloire. À nous de leur donner de la place.
Prions pour que nos gouvernants vous entendent.
Eh oui.
Deuxième sujet, l'accueil des reliques de Sainte-Bernadette dans notre diocèse, ce sera du 10 au 24 mars prochain. Alors, tout d'abord, quelles sont ces reliques ?
Je crois que c'est des restes de son corps, en fait. Il y a des reliques qui peuvent être soit le corps humain, des restes du corps qu'on garde dans un reliquaire très précieux, soit c'est des objets qui appartenaient à un saint, donc ça peut être une croix, ça peut être un vêtement. On n'est pas là pour comment dirais-je ? Il y a une différence entre l'adoration qu'on doit à Dieu et la vénération de reliques qui nous rappellent. Qu'est-ce qui nous rappelle au fond les reliques ? Qu'est-ce qui nous rappelle ? Elle nous rappelle que l'Esprit Saint, a travaillé le cœur, en l'occurrence d'une jeune femme, Bernadette, qui s'est faite elle-même l'instrument de Dieu pour nous dire un message et dont la vie elle-même a été une vie de sainteté. Donc la relique nous rappelle le concret, l'incarnation, la matérialité au fond de la vie de sainteté.
Oui. Où pourra-t-on voir ces reliques ?
Alors, elles vont tourner dans les différents doyennés. Donc, chaque doyenné a un créneau entre le 10 et le 24 mars. Il faut aller dans sa paroisse, voir ou bien sur les sites internet des paroisses, voir l'itinéraire que fera ce reliquaire. L'occasion de prier, de soirées, de rencontres. On verra bien avec le couvre-feu ce qui se passe, mais on pourra faire des choses, bien sûr. Et puis, on a devant nous Bernadette, hein, qui est...
Ah oui, parlons un peu de Bernadette.
Ah oui, qui reste une figure qu'on aime tellement, qui est... c'est une jeune fille qui est née en 1844 et qui a 14 ans, alors qu'elle conduit, elle va avec ses frères et sœurs, elle va le long du Gave, qui était une rivière à Lourdes, dans une grotte qu'on appelait la cuche aux cochons, donc une sorte de grotte un peu sale, un peu où il y a des cochons, où elle ramassait des ossements et des petits bois pour avoir un peu d'argent avec ça. Elle rencontre une dame qui va se présenter plus tard comme étant l'Immaculée Conception, donc la Vierge Marie. Elle la verra 18 fois. Au début, on ne la croit pas, on pense qu'elle ment, mais le fait qu'elle révèle ce nom Immaculée Conception, le curé de l'époque va la croire. Les gens vont commencer à affluer, les autorités vont enquêter, vont même la menacer, mais rien n'y fait. Elle est tout à fait simple, sa famille est très pauvre, hein, une famille de pauvres. Et puis ensuite, elle va rester quelque temps chez des sœurs à Lourdes avant de partir finalement à Nevers, où elle sera religieuse. Elle s'appellera sœur Marie Bernard. Et elle meurt vers 35 ans, assez fragile de santé, mais une vie de religieuse toute simple, qui est digne d'être notée, d'être relevée pour sa sainteté. Et entre-temps, bien Lourdes a pris un essor incroyable.
C'est ça qui est extraordinaire, cette toute petite histoire au départ.
Alors qu'elle n'y est plus.
C'est extraordinaire.
Et on y va toujours. Il y a une source qui a jailli entre les mains de Bernadette dans cette même grotte, source dont l'eau est un signe de guérison morale, psychique, mais aussi physique. Beaucoup de guérisons physiques, beaucoup de miracles attestés par la science, hein, des grosses études très longues, mais aussi beaucoup de guérisons physiques qui n'ont pas été attestées, mais qui sont quand même bien là, des milliers.
Et puis, il y a la Vierge de Lourdes. Même ceux qui ne sont pas croyants la connaissent parce que, autrefois, dans la maison, il y avait souvent quand même une statue
dans le
de la
monde
Vierge,
entier, etc. Dans le monde entier, vous êtes dans n'importe quel pays catholique, lieu catholique du monde entier, vous trouvez Reine de Lourdes. Voilà. Elle est vraiment tellement vénérée, oui.
Ouais. Chez ma grand-mère, on soignait avec une cuillerée de
D'eau.
parfois d'eau
D'eau, de l'eau,
de
bien sûr.
l'eau sur la. Voilà. Il nous reste peu de temps, mais 3 minutes pour évoquer un sacrement. La semaine dernière, c'était la confirmation. Là, c'est le sacrement de pénitence. On dit aussi le sacrement de réconciliation
Ou la confession.
ou la confession tout
En fait,
bonnement.
c'est un beau sacrement. Jésus a dit, d'abord, Jésus est venu apporter le pardon de Dieu. Je crois que c'était vraiment important parce que nous étions pécheurs et le péché conduit à la mort. Donc, il est venu s'offrir lui-même pour payer le prix lui-même de notre salut, notre réconciliation. Et dans ses enseignements aux apôtres, il va dire, pardonnez, ce que vous pardonnerez sera pardonné au ciel. Donc, il leur donne mission de pardonner en son nom aux fidèles qui viennent se confesser. Alors, la forme de ce rite a évolué avec le temps, mais aujourd'hui on le fait dans le secret. À une époque, on le faisait publiquement.
Ah,
Donc, c'était
c'était
un peu
public, les confessions.
oui, tout à fait, c'est arrivé. En tout cas, il y a le lointain, c'est au Moyen-Âge, mais aujourd'hui on le fait dans le secret. Il y a un secret de confession d'ailleurs qui est vraiment un secret total. Même la loi civile reconnaît au prêtre le droit de se taire. Alors il peut inviter le pénitent à aller voir la police si c'était un crime, par exemple, pour que lui dire, bah voilà, vous confessez un crime, Dieu peut vous pardonner de ce crime à condition que vous soyez vrai avec la société civile et que vous alliez vous-même vous dénoncer. Mais le prêtre ne le fera pas. Alors ça peut choquer certains, mais c'est la garantie aussi pour les fidèles de pouvoir parler librement de tout, de souffrance intérieure. Et alors le prêtre n'est qu'une médiation, hein, il n'est pas là pour juger la situation, il peut donner un petit conseil spirituel, un encouragement, une pénitence qui est un moyen concret de conversion, donc ce n'est pas une punition, une pénitence, c'est un moyen pour, par exemple, aller faire un petit pèlerinage, faire un acte de charité, de générosité, aller prier simplement. Mais c'est très très beau de voir comment le Seigneur libère des cœurs à travers ce sacrement. Notamment de choses qui sont parfois lourdes et graves, comme par exemple des femmes qui viennent dire, ben voilà, j'ai avorté il y a 15 ans ou 20 ans, et je viens demander pardon parce que ça me pèse trop sur le cœur. Et on voit vraiment une libération à travers ce sacrement. Ce n'est pas que une démarche psychologique, on voit vraiment l'œuvre de la grâce dans leur cœur.
Oui. Et c'est un sacrement qui est difficile parce qu'il oblige à faire un retour sur soi et c'est pas toujours agréable, je veux dire.
Il oblige à la vérité, il oblige à effectivement. Tout dire, mais comme il y a ce secret, on peut tout dire. Et le prêtre qui est devant vous, ou l'évêque comme moi, est pécheur aussi, et se confesse. Et du coup, encore une fois, on est souvent admiratif du courage des fidèles qui viennent se confesser. On est parfois témoin d'une vie spirituelle très belle à travers leur confession, et c'est même une source d'émerveillement pour un prêtre. Donc, j'encourage vraiment les fidèles à ne pas hésiter durant le carême. Avant Pâques, aller voir un prêtre, à prendre un rendez-vous, aller à une permanence et à demander cette confession.
Voilà, la
Ou
réconciliation est
au
au.
moins un échange. Hein, quand parfois, un catéchumène ne peut pas se confesser, mais il peut échanger, partager avec un prêtre sur sa vie intérieure.
Merci, Monseigneur. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Je rappelle que vous pourrez réentendre cette émission sur notre site www.radiograndciel.fr. Merci à Simon en régie technique. On se retrouve la semaine prochaine dans Libre Propos.